Donc, moi je m'appelle Samuel Pollendorf et je vais vous raconter un parcours parfaitement empirique et donc sur lequel j'aurais pas forcément le même niveau de réflexion que ce que vous allez partager pendant cette journée et demie. Mais je suis photographe, je viens vraiment de la presse au départ, j'étais vraiment un photographe qui travaillait sur des problématiques sociales, avec une photographie relativement classique, une photographie qu'on pourrait qualifier d'humaniste et qui tentait de s'affranchir des dogmes du XXe siècle, du photoreportage, etc. Et puis, dans le cadre de mon travail, j'ai enquêté pendant 3 années, et là, attention, je fais un signe de tête, sur les immolations. Ah, mais vous n'êtes pas du tout au format, en fait. Voilà, super. Sur les immolations en France. Il faut savoir qu'entre 2011 et 2013, il y a eu plus d'une immolation tous les 15 jours sur la place publique en France. Et il n'y avait aucun chiffre sur ces actes terribles, puisque les pompiers les enregistraient dans leur ligne statistique dans la même comptabilité que les gens qui brûlaient dans l'incendie de leur maison. Et l'Observatoire du suicide a été créé qu'en 2014. Donc on les a comptabilisés, on a enquêté sur chacune de ces drames. Et ce qui m'a permis de réaliser cette enquête, c'est pas la photographie, c'est pas la presse, puisque la presse n'avait plus les moyens de produire des enquêtes au long cours comme ça. Et donc c'est France Télévisions. Au travers de...
C'est pas grave, en fait. Ouais. Je viens pour... parce que vous avez un problème de connexion avec votre...
C'est pas grave, en fait, ça y est, je suis parti.
On va faire cette
intervention-là
comme ça,
ouais.
Et après on verra pour la suite.
D'accord.
Merci.
Ok.
Et comme ça, je vais pouvoir être focus sur ce que je vous raconte. J'ai travaillé pendant 3 ans sur ce sujet, et comme vous pouvez malheureusement l'imaginer, tous ces gens avaient disparu, et donc ma photographie qui plaçait toujours l'humain au cœur des images ne pouvait pas travailler sur les immolations de la même façon, parce qu'évidemment j'étais pas là au moment de ces passages à l'acte, heureusement. Et donc parfois j'arrivais 6 mois, 1 an après, et j'étais confronté au fait de photographier l'invisible. Et donc peut-être vous pouvez passer à la slide après, s'il vous plaît. Donc, faire le pas. Super. Et donc, en fait, vous êtes en zoomé. Vous pouvez dézoomer un tout petit peu parce que vous n'avez pas toute la page. Voilà, super. Vaut mieux qu'on soit un peu petit et comme ça, on aura les légendes. Non, pas juste slider, mais dézoomer un peu. Bon.
Page unique.
Vous y étiez ?
Non.
C'est pas grave, on va faire comme ça. Et donc, ne pas perdre le fil. je ne pouvais plus photographier au Leica des gens au cœur de mes images, et donc je me suis mis à essayer de photographier ces lieux de façon très cadastrale et de les faire dialoguer avec les récits. Peut-être que vous pouvez descendre. Par contre, j'ai vraiment besoin que vous me regardiez parce que normalement, c'est moi qui manipule. Donc voilà, et encore un petit peu. Donc ça, c'est le lieu de l'immolation de Mohamed Ouazizi en Tunisie. Avant, c'était France Télécom, Rémi Louvradou. Et puis, on va encore passer à celle du dessous qui est... celle d'Éric Chéron. En fait, l'enjeu, c'était de... Toutes ces immolations, elles étaient traitées comme des faits divers, et on ne travaillait pas du tout sur la portée contestataire de l'acte. Et quand on a travaillé, on s'est rendu compte que les 3/4 de ces immolations en France avaient lieu devant des lieux de service public. Et donc, quand on les réunissait, finalement, la portée contestataire et le signe du délitement du projet social français hérité de l'après-guerre était criant. Et donc c'est pour ça que j'ai aussi travaillé sur des lieux à l'étranger pour lesquels on ne mettait pas en cause la portée contestataire de l'acte. Mohamed Bouazizi déclenche la révolution de Jasmin et tous les printemps arabes. J'ai été au Tibet pour photographier des lieux d'immolation de moines tibétains, etc. Mais je vais passer sur ce sujet. L'enjeu, c'était vraiment... J'ai été confronté au fait de travailler sur la question de la représentation de l'invisible. Et donc, peut-être que vous pouvez passer à la salle d'après, merci. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir une scénographie qui permettait de présenter ces lieux tout à fait ordinaires, avec une première immersion, et puis ensuite... Génial. Et puis ensuite, d'être confronté au texte et donc au récit de ce qui s'était passé sur ces lieux, et donc on ne pouvait plus les regarder de la même façon. Et finalement, c'était de convoquer l'imaginaire hors champ qui se jouait dans le traitement de ce sujet. Et puis à la fin de... Après tout ce travail, j'ai réalisé d'autres projets et depuis 2018, j'ai décidé de travailler sur des problématiques environnementales. Et donc on peut passer à la slide suivante, merci. Et j'ai réalisé pour le journal Le Monde un tour du monde de lieux contaminés pour des siècles. Donc j'ai été au Canada sur les problématiques des sables bitumineux. On peut passer à la suivante, merci. L'industrie en Alberta d'extraction du pétrole dans le sable est une catastrophe environnementale. Hein. Uniquement ces usines produisent autant de gaz à effet de serre qu'un pays comme le Danemark. Et ces sables sont dans des forêts primaires qui sont rasées sur des surfaces qui sont presque aussi grandes que la Floride. Et donc, l'enjeu, il était de photographier, encore une fois, la beauté des paysages, et finalement, pas la catastrophe, mais cet invisible, puisque le lac Athabasca au Canada, par exemple, est un lac gigantesque dans lequel vivent, autour duquel vivent des Premières Nations qui pêchent et qui boivent l'eau, et qui se retrouvent avec des cancers... comme s'ils avaient travaillé dans des usines d'amiante pendant 30 ans de leur vie. Et puis ensuite, j'ai été en Alabama, à Anniston, aux États-Unis, où Monsanto a créé et produit les PCB pendant des décennies, en connaissant les effets sur la santé, sur la population. Et... généré des taux de cancer rares dans cette ville spectaculaire, ce qui fait que cette ville est abandonnée. On est au cœur des États-Unis parce que les femmes. Vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Les gens qui vivent là. Ont des cancers rares et les femmes font des enfants avec 6 doigts, sans yeux, alors qu'on est au cœur des États-Unis. Vous pouvez passer à la slide. Merci beaucoup. Et puis après l'Alabama, j'ai poursuivi ce tour du monde jusqu'à Dzerzhinsk en Russie, où cette ville qui était interdite aux journalistes jusqu'à il y a peu, produisait de l'armement chimique et des produits chimiques. Donc ça, c'est pas du tout un lac. C'est ce qu'on appelle le trou noir qui fait environ 8 étages de profondeur. On ne sait pas ce que sont ces matières, si ce n'est que les pieds collent au sol, ils restent avec des filaments. Et au bout de 15 minutes, c'est insoutenable. On doit quitter les lieux tellement ça fait mal à la tête. Et donc... dans cette ville encore, les taux qui sont évidemment difficiles d'accès, mais avec les médecins en maternité, etc., on arrive à savoir combien les femmes avaient des problèmes dans leur capacité à faire des enfants, et avec des taux d'enfants avec des problèmes à la naissance terribles. Ensuite, j'ai été au Brésil, où j'ai travaillé sur le Rio Doce, qui est le troisième fleuve du Brésil, qui est un fleuve qu'on appelle, donc Rio Doce, c'est doux, mais qu'on appelle maintenant le fleuve mort, puisque l'industrie minière et les barrages des grands groupes internationaux qui exploitent le fer, notamment, s'effondrent. Donc là, en l'occurrence, il y en a eu plusieurs, mais là, celui-là, il était gigantesque. Et, je parlais avec les mains, mais c'est pas grave. et donc, ça a généré un tsunami de boue toxique qui a tué le fleuve sur 500 km. Vous pouvez passer à la suivante. Merci beaucoup. Où la pêche est interdite, et évidemment, cette ressource est complètement dévastée. Puis ensuite, j'ai poursuivi ce tour du monde terrible au Japon, à Fukushima, où là, je n'ai pas forcément besoin de vous parler de la problématique, mais où une zone entière est interdite d'accès, désormais. Et encore une fois, alors là, c'est un peu visible, parce qu'il y avait le tsunami, et donc cette zone-là n'a pas repris vie, mais c'est pas la radioactivité qui a fabriqué cette dévastation visuelle. Vous pouvez passer à la suivante, et puis encore la suivante, puisque la réalité, c'est ces forêts. Fukushima, c'est un petit peu comme les Cévennes, c'est très vallonné avec beaucoup de forêts. Et donc, c'est absolument impossible de nettoyer ces forêts, et donc elles ne sont absolument plus viables. Et donc tout l'enjeu de cette série, vous pouvez passer à la suivante, merci beaucoup, c'était de réaliser ce tour de monde de pays riches, de pays qui ont les moyens d'agir autrement, mais qui, pour des enjeux économiques, décident de continuer à dévaster des pans entiers de la planète et surtout de les rendre impropres au développement de la vie pour des siècles. Et le dernier volet de ce projet m'a conduit à traverser ce qu'on appelle communément le continent plastique. Et alors, non. J'avais un effet de surprise dingue. Et donc, en fait, le continent plastique, c'est absolument pas des tombereaux de déchets comme on peut en voir certaines images, puisque... on déverse effectivement l'équivalent d'un camion benne de plastique par minute dans les océans, et l'Europe est le deuxième pollueur. Mais ces plastiques, ils vont être pris dans les courants, dans les vents, frappés par les UV, etc. Et ils ne vont pas du tout se biodégrader, hein, c'est pas biodégradable, mais ils vont se fragmenter. Et ils vont se fragmenter en milliards de microplastiques. Et donc là, on est au cœur du continent, enfin du gyre de plastique du Pacifique Nord, que j'ai pu traverser à la voile avec la goélette Tara, qui donc embarque des scientifiques pour étudier tous les effets du climat sur les océans. Et donc là, on est à 3000 km de la première terre émergée. C'est magnifique, c'est l'océan Pacifique. Et donc, quand les scientifiques passent un filet dans l'eau à cet endroit-là, attention, effet de surprise raté, voilà ce qu'ils ramassent. Et en fait, il y a plus de plancton il y a plus de plastique, pardon, que de plancton. Et donc, toutes les espèces animales se nourrissent du plastique, puisqu'elles ne savent pas que ça existe, donc elles le confondent avec de la nourriture. Et en fait, leurs estomacs se remplissent de plastique, et comme elles ne peuvent pas le digérer, elles meurent de faim. Elles meurent de faim, se décomposent, et ces plastiques, eux, sont toujours là. Et puis, évidemment, là, on parle de des microplastiques, mais les nanoplastiques et tout ce que ces plastiques finalement relarguent, eux sont capables de pénétrer les tissus, etc. Et donc finalement constituent désormais un nouveau maillon de la chaîne alimentaire. Et donc on a tous du plastique dans nos corps, vous le savez sûrement. Et donc Finalement, vous pouvez passer à la suivante, merci. Voilà les échantillons que les scientifiques embarqués à bord de Tara prélèvent dans les océans et dans les mers. Et donc, la vraie question, c'était comment se figurer, encore une fois, cette catastrophe, puisque les images qu'on pourrait imaginer faire de plastique à la surface et d'images terrifiantes n'étaient absolument pas réalisables, puisque, comme vous l'avez vu, quand on regarde la mer, la seule chose qu'on puisse faire, c'est des images tout à fait merveilleuses. Et donc, tout l'enjeu, ça a été d'essayer de trouver, encore une fois, une façon de vulgariser et d'être à l'endroit juste de la réalité de ces contaminations. Et donc, j'ai travaillé en diptyque, en mettant en regard, finalement, à chaque fois, ces paysages merveilleux que, encore une fois, un ordinaire qu'on est capable d'identifier. C'est finalement la même chose qu'un morceau de parking d'une agence France Télécom ou d'une agence Pôle emploi de la périphérie de Nantes. C'est des lieux qu'on peut tout à fait reconnaître. C'est un ordinaire qui nous est familier. Et finalement, quand on part de cette identification à laquelle on peut se raccrocher, la violence du récit est d'autant plus forte. Et donc, l'idée, c'était à chaque fois de confronter l'échantillon et la beauté du paysage qu'il renferme. Donc, on peut passer à la suite. Ça, c'est encore le gire de plastique. Alors, je vais le dire naïvement, parce que moi, je suis pas marin, mais quand on traverse le Pacifique, bah, c'est beau. La mer, c'est merveilleux, ça change de couleur tout le temps, etc. Donc, l'idée, c'était vraiment d'aller jouer sur ce registre du merveilleux et de le confronter à chaque fois à la violence de ce que contiennent les échantillons. Et donc, j'ai poursuivi ce travail toujours avec Tara après. Donc, j'ai embarqué en Méditerranée. Si vous continuez, on va. Voilà, en Atlantique Nord, dans la mer du Nord. De toute façon, il y a du plastique partout, jusque dans l'océan Indien. Et puis, dans la mer intérieure de cette eau au Japon, systématiquement, les échantillons révèlent ce que contiennent les océans. Et donc, l'exposition, ça c'était au 104, ça a été exposé à Kyotographie aussi. L'enjeu, c'était toujours d'essayer de fabriquer un premier dispositif où, encore une fois, on pense qu'on va voir la mer, et donc on va capter une attention d'un spectateur qui ne va pas être repoussé par la violence des images. Et puis, sur les socles, finalement, à chaque fois, on a, je vais passer à la suivante, voilà, on a le contenu des échantillons. Et donc, ce travail sur les océans, j'ai eu la chance, ça allait un tout petit peu vite, j'ai eu la chance de pouvoir le continuer, donc vous avez vu l'océan Indien, de le continuer grâce à une résidence que j'ai conduite en mars dernier à La Réunion. Et j'ai rencontré à cette occasion-là une océanographe de l'Université de Saint-Denis qui travaille sur les plastiques et avec laquelle j'ai pu faire un prélèvement supplémentaire dans l'océan Indien et qui m'a fait rencontrer l'Observatoire des tortues de Kélonia à La Réunion, avec lequel on est en train de monter un projet pour lequel je peux vous montrer les premières images, qui sont des tests. Et donc là, on n'est plus sur le contenu des océans, mais l'idée est d'essayer d'aller raconter en plus l'immensité du temps, puisque avec cette série qui s'appellera Le Banquet, l'idée c'est de travailler sur les contenus des estomacs des tortues. Donc voilà le contenu de l'estomac d'Alice. La règle graduée, c'est 30 cm. Donc ça, c'est un A3. J'en ai 4 ou 5 qui sont les premiers tests. Voilà, Kevin, Paula, Calypso, on peut peut-être s'arrêter là. Et Il y a 10 ans, ce centre, cet observatoire qui soigne également les tortues qui sont pêchées accidentellement, qu'on retrouve accidentées par des hélices de bateaux, des choses comme ça. Donc à chaque fois qu'on identifie une tortue, c'est grâce aux taches qu'elle a sur le visage. C'est un peu comme les empreintes digitales. Donc très vite, ils sont capables de savoir s'ils ont déjà rencontré cette tortue. Et si elle n'a pas été rencontrée, la personne qui l'a trouvée peut lui donner un nom. C'est pour ça, en fait, qu'elles ont des prénoms tout à fait populaires. Et donc, il y a 10 ans, 17% des tortues qui passaient par ce centre de soins avaient du plastique dans leur estomac. Et aujourd'hui, c'est 87%. Donc, de toute façon, bientôt, toutes les tortues auront donc du plastique dans les estomacs. Et donc, on est en train de tuer, avec quelque chose qu'on a inventé il y a un siècle, des individus qui sont sur Terre depuis 110 millions d'années. Donc tout l'enjeu, il est pas de montrer les tortues, parce que dans l'imaginaire, encore une fois, les tortues, c'est mignon, c'est kawaii, on est ok quoi, avec l'idée que c'est merveilleux. Et donc l'enjeu, c'est d'aller fabriquer encore une fois l'identification et d'aller mobiliser l'imaginaire, donc de ne pas en montrer, mais par contre de montrer la violence de ce que contiennent leurs estomacs. Donc le prénom, c'est aussi un vecteur. Certaines, je ne sais pas si peut-être vous pouvez montrer la suivante. Oui, voilà. Lord, par exemple, elle est morte en 21. Donc tous ces micro-registres sont des registres d'identification, en fait. Et l'enjeu, c'est encore une fois d'essayer d'aller affecter le regardeur sur ces problématiques. Parce que ma question, qui je pense est la vôtre aussi, c'est... comment on fait, enfin, alors moi de mon point de vue en tant que photographe, comment on fait pour mobiliser l'opinion, alors que nous savons tous ce que je vous raconte, même si pas forcément ce détail-là, aussi gigantesque soit-il, mais on sait combien on est en train de se précipiter dans quelque chose d'invivable, et pour autant on n'agit pas ou si peu. Et donc, c'est comment faire pour remettre toujours sur l'ouvrage, parfois, des sujets que nous connaissons déjà, quoi. Donc, c'est d'essayer de trouver des registres qui vont convoquer l'imaginaire, qui vont engager quelque chose d'une réception affectée, quoi, avec laquelle on ne puisse pas rester insensible ou sans action. C'est peut-être déjà trop ambitieux d'espérer aller jusque-là, mais... Donc voilà, donc l'idée c'est de créer, peut-être qu'on peut aller à la suivante, merci, une espèce de mur comme ça, une espèce de mausolée d'Anthropocène avec, donc ils ont 300 échantillons dans leur base à Kélonia, et donc de tous les photographier et de fabriquer un mur de cette façon-là. Et puis, passez pas tout de suite à la prochaine parce que je sais plus ce que je vais vous raconter après. Et donc, ça, c'était pour travailler sur des problématiques de contamination, de plastique, et de choses comme ça. Mais alors, comment travailler sur le climat ? Alors, le climat, en photographie, c'est un peu des sujets tarte à la crème. C'est photographier, encore une fois, quelque chose de très beau et spectaculaire. En tout cas, c'est photographier des choses qui sont déjà photographiées aussi. Donc, j'ai essayé un petit peu... grâce à une bourse du CNAP, de travailler sur les éléments, en disant que je pouvais travailler sur les méga-feux, les inondations, etc. Ça, c'est des étapes de recherche que finalement, je n'ai pas poursuivies. On peut passer à la suite, voilà. Donc, j'ai travaillé un peu sur les méga-feux pour commencer, en faisant finalement des images qui ne sont pas très différentes de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, je me disais que ce n'était pas la solution. Ça, c'est pour les méga-feux. Je pense qu'après, il y a des choses sur les inondations. Ça, c'est la vallée de la Roya. L'idée, c'était aussi d'essayer de travailler localement. Là, on est en 2020, donc avec le Covid, évidemment, j'étais empêché de voyager. Mais en plus, je me disais, ça n'a pas de sens de travailler sur le climat en prenant l'avion, quoi. Donc, il faut travailler localement. Donc, j'ai travaillé dans la vallée de la Roya. Et puis, on peut encore passer. J'ai essayé de travailler sur les sécheresses en Roussillon, en cherchant des espèces de protocoles. Bon, ça ne marchait pas. Et donc, je me suis dit, mais en fait, le climat, il est déjà renseigné photographiquement. Ça ne sert à rien, que je crache du kérosène pour aller photographier des incendies en Californie et des inondations en Chine, pour raconter le global. Parce que tout l'enjeu, c'est comment on fait pour raconter quelque chose de global, et en même temps, que ce soit intime, donc finalement, que ça nous touche. Et donc ça, c'est peut-être en travaillant sur quelque chose de plus local, quoi. Donc, depuis plusieurs années maintenant, je collecte les images que les gens postent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Truth Social, sur Facebook, sur Snapchat. Les images que les gens postent avec, qui nous racontent évidemment en toile de fond le réchauffement climatique, enfin, le changement climatique, mais qui racontent également la sidération, le complotisme, le mysticisme, et finalement tout ce qui fait que nous, humanité, on met ces problématiques à distance, quoi. C'est une série que... Voilà, vous pouvez continuer. Oui. C'est une série que j'agrège, je continue à produire. L'idée, c'est de constituer une espèce de collection, une espèce de nouvelle archive de la planète, en fait, à la manière d'Albert Kahn, qui mandatait des photographes pour aller documenter le monde et le folklore et le patrimoine qui risquaient de disparaître. Alors, moi, je mandate des photographes partout dans le monde pour qu'ils documentent et ils témoignent en même temps, c'est-à-dire que ces témoignages, c'est des valeurs d'intimité qui viennent fabriquer la réception globale, quoi. Et puis de toutes ces images, il y a des typologies aussi qui se dégagent, comme en Floride où on photographie son bateau retourné, en Espagne où on a vu fleurir des avis de recherche pour les animaux domestiques, et puis aussi des images complètement fabriquées de mystiques. Tout ça, pour moi, ça raconte finalement autant l'échec de la façon dont on avance dans cette réaction face à la catastrophe climatique que de photographier la catastrophe elle-même. Et donc, on peut passer. Voilà, l'idée, c'était en tout cas d'essayer de raconter le global avec tous ces sujets, autant les tortues qui nous font plonger aussi dans l'immensité du temps de la planète, mais avec la mer, avec ce premier tour du monde, etc. J'ai même été jusqu'à essayer de photographier l'espace en me disant qu'il y avait déjà 128 millions de débris spatiaux dans le ciel, en allant dans le désert d'Atacama pour photographier ça. Et puis, l'idée, en fait, c'est que désormais, j'ai cette espèce d'écrin global. Et donc, il faut travailler hyper localement, désormais. C'est-à-dire que l'enjeu de ma recherche, désormais, c'est d'essayer de trouver les bons partenaires, les bons interlocuteurs, puisque c'est une connaissance que je n'ai pas, évidemment, scientifiques, oncologues, etc., pour savoir sur quel type de cancer, en fait, hyper... ordinaire et malheureusement de plus en plus fréquent et de plus en plus précoce, sur lesquels il faudrait travailler pour essayer de raconter finalement les effets de tout ça sur nous, puisque on sait désormais que il n'y a plus de safe place. Quoi qu'on fasse, on a beau faire du sport, on a beau ne pas habiter à côté d'un cluster où des viticulteurs épandent des produits toxiques. Partout, tout le monde, de plus en plus jeune, est susceptible d'être affecté par des cancers dont on sait que c'est pas normal, que ce soit de plus en plus tôt. Donc l'enjeu, c'est d'essayer d'aller travailler là-dessus pour aller fabriquer le micro local, ce qui nous touche nous, ce qui est notre cœur de préoccupation et encore une fois ce qu'on reconnaît. puisque l'écran global, finalement, il est fabriqué. Donc voilà, l'enjeu, c'est désormais de travailler, encore une fois, en France, avec des résidences localement, et d'essayer de travailler dans des CHU sur ces problématiques, pour, encore une fois, essayer de remettre tout ça dans une phrase globale. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous raconter. Merci beaucoup pour tous ces slides passés. Maintenant, on a trouvé un super truc. Peut-être vous pouvez passer... voilà, bah, ça, c'est ce que je viens de vous raconter. Et puis, voilà la fin. Merci.
Avec toutes les choses catastrophiques que vous avez eues, lesquelles avaient été le plus surpris d'être ému? Qu'est-ce qui vous a le plus ému et qui vous a surpris d'être ému avec tout ce que vous avez vu?
Alors, oui, parce qu'effectivement, on est forcément ému, mais une émotion à laquelle je ne m'attendais pas. Mais je crois que ces tortues, là, on a atteint un niveau de... En fait, j'ai l'impression qu'elle nous raconte un point de non-retour. Ce qui est, on pourrait l'avoir sur tous les autres sujets. Hein. Mais je crois qu'il y a quelque chose là. Je trouve ça tellement dingue de se dire que voilà, 110 millions d'années, les dinosaures, ils ont disparu il y a 60 millions d'années. On est en train de les tuer avec un truc qu'on a inventé il y a moins d'un siècle, donc ça va trop vite, ça va plus vite que notre capacité à revenir en arrière. Oui, en tout cas, évidemment de l'émotion, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça doit nous atteindre. Je ne sais plus comment faire. Sinon,
une autre question, peut-être, si vous voulez. Si vous n'avez pas de curiosité à satisfaire et pas de questions à poser, on peut passer à la personne suivante. Ah non, il y a une deuxième question.
Oui, bonjour. Donc, tout d'abord, merci pour cette présentation. C'était hyper éco-anxieux. Voilà, mais très réussi. Et donc, ma question, elle est au niveau de la réaction des publics quand ils voient et découvrent votre travail et l'évaluation de l'impact que ça peut avoir dans leur changement de comportement suite à cet éveil en fait que vous créez.
J'ai pas de questionnaire de satisfaction à la fin de mes expositions, donc je ne peux pas vous dire. J'essaye beaucoup d'exposer en plus dans l'espace public, de créer des dispositifs qui vont rencontrer un public qui n'est pas forcément venu pour ça. Donc les effets, je ne sais pas si c'est des effets de gens avec lesquels je suis en mesure de parler, qui sont atteints, qui sont affectés. Après, qu'est-ce que ça change dans leur mode de vie quotidien? C'est toujours tellement compliqué à évaluer. Et puis, c'est tellement aberrant de se dire qu'on a décidé d'arrêter de prendre l'avion et qu'on balance des milliards de bombes sur des territoires qui ont phosphate, etc. Bon, de toute façon... Il y a tellement pire, mais il faut pas s'arrêter à ça pour autant. Mais donc, quels effets on arrive à avoir sur l'opinion? C'est une question qui est toujours très ingrate et à laquelle presque j'ai tendance à ne pas essayer de répondre concrètement parce que sinon j'arrêterais mon métier. Et en même temps, je le fais parce que j'ai jamais eu le sentiment que j'allais changer le monde, mais c'est l'idée de la goutte d'eau. Donc... c'est avec plein de gouttes d'eau qu'on fait bouger les choses. Donc je suis toujours convaincu. J'ai aucune idée de l'effet réel. En tout cas, il n'est pas quantifiable.
Moi, j'ai une question pour toi, Samuel, parce que tu travailles avec beaucoup de chercheurs. Tu l'as fait dans Tara, tu le fais, voilà, des chercheurs des sciences du vivant. Comment travailler avec des chercheurs des sciences humaines et sociales, justement peut-être sur la question de la mesure de l'impact de ton travail, mais peut-être aussi sur de la formalisation d'enjeux sociologiques, politiques. Est-ce que tu envisages ça?
J'ai travaillé avec des chercheurs, mais plus pour sourcer mes enquêtes, en fait. C'est-à-dire que c'était pas des collaborations en termes de création. Systématiquement, en fait, je me nourris du travail des chercheurs, parfois à leur insu. C'est-à-dire que je lis des rapports, des publications qui vont me donner des idées ou me faire évoluer dans mon travail. Mais j'ai mené une enquête pendant un an sur la précarité du logement avec la Fondation pour le logement. Et avec tous les contributeurs de leur rapport, je ne travaille pas sur les immolations, c'est un documentaire de 3 ans avec lequel évidemment on a aussi travaillé beaucoup avec des chercheurs sur le travail et sur des problématiques comme ça. Mais jamais sur la question de la mise en œuvre, de la mise en forme. Ça, c'est. Là, pour le coup, c'est vraiment sur les problématiques environnementales et plus particulièrement même de pollution, donc où il y a un objet aussi microscopique soit-il qui est tangible et sur lequel il y a une représentation presque matérielle possible et sur laquelle on peut travailler, quoi. Donc c'est une autre façon de faire image de l'invisible qui se joue sur la problématique sociale. Enfin, paradoxalement, en tout cas sur la recherche, c'est-à-dire qu'évidemment, photographier quelqu'un qui est sans abri, c'est tout à fait visuel, et en même temps, je pense que c'est contre-productif, puisqu'on ne veut pas voir. Donc, quelles images il faut faire, ça c'est encore un autre champ de recherche, mais je ne sais pas si c'est... j'ai jamais expérimenté ça avec des chercheurs en sciences sociales, en fait. Et c'est vrai que sur la question des pollutions, on a un objet sur lequel on peut chercher le langage commun, quoi. Qui est celui de la représentation, qui n'est pas du tout le même, mais en fait, finalement, je fais un travail de vulgarisation, quoi. Donc, je ne sais pas.
Merci beaucoup, Samuel, de ces quelques réponses, et je crois que tu mérites une salve d'applaudissements.